Cet épisode a été enregistré au mois d'octobre 2020 dans le cadre de la deuxième vague de la crise de la COVID-19 en Estrie. Dans l'optique de favoriser une culture d'apprentissage et de partage de bonnes pratiques, l'Observatoire estrien du développement des communautés présente Sonar, un balado qui explore en profondeur les dessous de l'action collective et du développement des communautés en Estrie à travers des rencontres inspirantes avec les acteurs sur le terrain. On vous présente un épisode sur la réponse du milieu à la crise de la COVID-19 dans la MRC de Coaticook. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie Drouin, directrice générale de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Coaticook. Madame Drouin, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire d'abord quelques mots sur qui vous êtes et comment vous vous réalisez professionnellement dans la région de l'Estrie?
Oui. En fait, Émilie Drouin, fièrement Coaticookoise, qui travaille dans son milieu, donc la CDC, en fait, la Corporation de développement communautaire, c'est un acteur incontournable, en fait, dans le développement social des communautés un peu partout au Québec, ici dans la MRC de Coaticook, plus précisément. Donc, on travaille vraiment, en fait, là, à représenter le milieu communautaire et populaire dans le développement social, économique, environnemental, en fait, là, de la communauté.
Aujourd'hui, on va parler de la réponse à la crise de la COVID-19 dans la MRC de Coaticook. Pouvez-vous nous parler de comment les acteurs du milieu se sont organisés à partir du 13 mars?
La réponse a été quand même assez rapide dans le sens où rapidement, en fait, on a mis sur pied une cellule de crise où on rassemblait, en fait, là, différents partenaires, un peu comme ça s'est fait un peu partout, en fait, en Estrie, avec, bon, la MRC, Chambre de commerce, l'organisation communautaire aussi au niveau du CIUS, de l'Estrie-CIUS, mais vraiment avec le RLS de Coaticook, la députée Hébert, donc de la circonscription de Saint-François. On avait également la commission scolaire qui s'est joint à nous, maintenant le centre de services, scolaire, et la clinique familiale. Donc voilà, on a mis en fait rapidement sur pied une cellule de crise pour discuter en fait des enjeux qui touchaient peut-être plus en fait au niveau de la population, mais de se rassembler en fait comme ça avec différents milieux, différentes expertises aussi, ça l'a fait en sorte que le communautaire a pu parler à l'économique, on a pu parler aussi au niveau des municipalités, on a pu parler au niveau de, bon, OK, comment est-ce que se développe justement cette pandémie-là, puis l'accès aussi aux services. Donc, ça a été vraiment une très belle réponse, vraiment rapide. On s'est vite relevé les manches, en fait, pour se concerter, parler de comment ça impactait notre communauté, autant au niveau de la population que si on monte vraiment avec les entreprises, les industries, etc., etc. Là. Donc, non, on a eu quand même une réponse assez rapide, puis qui a donné aussi des résultats dans le sens où on savait, puis on était capable après ça de redescendre l'information aussi chacun de notre côté.
Est-ce que des partenariats qui étaient peut-être moins habituels se sont développés pendant la crise?
Effectivement, on a moins tendance, en fait, à mélanger, exemple, le développement économique avec le développement social, mais là, cette crise-là, en fait, nous a obligés, en fait, à justement sortir un peu de ces barrières-là. Donc oui, effectivement, des partenaires que je connaissais, mais qu'on n'avait jamais eu la chance, en fait, de vraiment collaborer ensemble. Donc beaucoup au niveau du développement économique, là, évidemment, là, mais aussi... C'était intéressant, en fait, d'avoir aussi la clinique médicale qui était quand même là, qui est plus représentée, si on veut, d'habitude par le CIUS, mais là, on avait vraiment un pouls, en fait, directement avec la clinique. Donc, c'était vraiment intéressant comme cellule de crise. Ça a amené des beaux partenariats, puis un bel échange. Puis ça nous fait évoluer aussi nos idées puis nos pensées. Donc, ouais.
Comment les organismes ont-ils pu évaluer les besoins des populations les plus vulnérables de la communauté?
Je pense que les organismes communautaires, ils connaissent tellement bien leur population, ils connaissent déjà les enjeux. On n'avait pas besoin de se poser un million de questions non plus à savoir comment est-ce que nos populations allaient. Sur le territoire aussi de la MRC de Quatico, on est extrêmement chanceux. On a des travailleurs de proximité pour toutes nos tranches de population. Puis ça, veut, veut pas, ben, nos travailleurs de proximité, eux, ils ont la capacité, en fait, là, de vraiment se connecter, en fait, avec les gens qu'on rejoint pas nécessairement, en fait, via les services des organismes communautaires parce qu'ils sont plus éloignés encore, tu sais, des services. Il y a une certaine crainte aussi. Donc, on est vraiment connecté avec les gens qui sont le plus probablement en situation de vulnérabilité puis de pauvreté. Comme je disais, les organismes communautaires, ils la connaissent, leur population. Ils ont aussi des bénéficiaires, en fait, là, qui sont habitués de voir. Puis, on le voit aussi par la participation ou la non-participation de la communauté. On est capable de voir qu'il y a quelque chose qui se met à clocher. Tu sais, quand une maison de jeunes, par exemple, va organiser des visioconférences, puis qu'au bout de quelques semaines, il y a presque plus de jeunes, c'est parce qu'on sait qu'on est en train de les échapper, là. Les actions, inactions et les changements de comportement viennent aussi nous orienter à savoir, OK, comment se porte notre population.
Croyez-vous que les citoyens en ont appris plus sur le rôle du milieu communautaire durant la pandémie?
Je crois que oui, parce que, en fait, quelque chose qu'on s'est répété, en fait, constamment pendant cette pandémie-là, c'est que maintenant, tout le monde était en situation de vulnérabilité. Il n'y avait pas personne, en fait, qui était à l'abri, puis... C'est quelque chose aussi qu'on répète souvent à la population, hein, tu sais, des campagnes de panier Noël puis tout ça, on dit tout le temps, il y a personne qui est à l'abri, tu sais, d'un coup dur. Ben là, tout le monde était en coup dur. Très peu de gens, en fait, ont continué de travailler, donc il y a eu des changements de revenus puis tout ça. Donc, oui, je crois que la population était plus à l'affût, en fait, des services des organismes communautaires, parce que là, ils en avaient de besoin. Mais, en contrepartie, je crois aussi qu'il y a il y avait comme une partie, en fait, de la population qui se retrouvait là, entre deux chaises, dans le sens où ils sont tellement pas habitués, justement, d'avoir recours à ces organismes-là, à ces services-là, que là, il y a des gens, très certainement, qui se sont retrouvés, en fait, désemparés, qui savaient pas vers où se tourner, qui hésitaient à demander de l'aide aussi, parce que veut pas, c'est encore malheureusement une pensée qu'on a beaucoup, c'est la honte d'aller demander de l'aide, alors qu'il y en a pas de honte à aller demander de l'aide. Mais oui, je crois qu'il y a quand même des gens qui ont appris à découvrir, en fait, des organismes communautaires. Il y a des services aussi qui ont été mis en place pour, justement, ces personnes-là qui, normalement, n'auraient pas fréquenté les organismes ou encore les activités des organismes. Donc, oui, on a débordé un peu de la clientèle plus vulnérable parce que, justement, tout le monde était vulnérable, en fait, là. Et même encore aujourd'hui.
Du point de vue du développement des communautés, est-ce que des innovations ou des nouvelles façons de faire ont émergé durant la réponse à la crise?
Des nouvelles façons de faire, je dirais plus, en fait, un effort, en fait, dans la concertation qui existait quand même déjà dans la communauté. Tu sais, je pense entre autres à cette cellule de crise-là, tu sais, les gens qui étaient assis autour de la table virtuelle, c'est quand même des gens, tu sais, que je côtoie dans d'autres tables de concertation, peut-être de façon moins fréquente, on s'entend, là, on s'est rencontrés quand même à chaque semaine, vers la fin un petit peu plus aux deux semaines, là, on a étalé ça un petit peu parce que là, ça avec le déconfinement, évidemment, ça a eu un impact... positif quand même là, sur la santé des gens et tout ça. On a évidemment mis sur pied des outils. Il y a eu un dépliant, en fait, qu'on a fait là, pour orienter les gens vraiment pendant la période de la COVID. Des petites formations aussi pour aider les entreprises puis aussi les organisations, en fait, qui devaient répondre à la population alors que d'habitude, ça fait pas partie nécessairement de leur rôle. une population aussi qui était en état de choc, si je peux dire, là, puis encore une fois, en situation de vulnérabilité.
Et de quelle manière la population a-t-elle été frappée par cette pandémie-là?
C'est une crise qui s'est passée à deux niveaux. Premièrement, les gens, en fait, qui ont continué de travailler, c'est sûr que pour eux, ça l'a mieux été, en fait, parce qu'on gardait une certaine routine. C'est autant qu'on n'aime pas la routine des fois, mais on voit là à quel point c'était bénéfique, en fait, de dire « bon, ben je me lève le matin, je travaille ». On a vu plein de vidéos, tu sais, des gens, tu sais, qui faisaient rien pantoute pendant la COVID, tu sais. Veux pas, ça l'amenait à une espèce d'équilibre, en fait, de santé mentale, de se garder une certaine routine. Mais les gens qui avaient déjà des difficultés, eux, ont vécu encore plus de difficultés. Et des gens pour qui ça a été une bénédiction quasiment, tu sais, dans le sens où on a pris du temps avec la famille, on a pris du temps avec nos enfants. Et combien de gens autour de moi j'ai entendu « Hey, tu sais, de prendre du temps, là, les parents avec les enfants, de profiter de ce moment-là ». Mais si je le compare avec une famille monoparentale, je m'excuse, là, poignée dans un 4,5 en plein hiver, ça devait pas être rose, là, honnêtement. Donc, ça s'est vraiment vécu, en fait, à deux niveaux, complètement.
Quels sont les défis majeurs auxquels le secteur communautaire doit faire face actuellement?
Il n'y a rien de nouveau, en fait, dans ce défi-là, mais évidemment, le financement des organismes communautaires, là, c'est une lutte de tous les jours. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est quand même ça. Puis, en fait, la pandémie a mis encore plus en lumière, en fait, ce manque de financement-là. Et je crois que c'est important aussi de mettre une emphase sur le financement à la mission. Et non le financement par projet. Ce qu'on a vu énormément sortir, en fait, pendant la crise, ce qui demande aux organismes, en fait, de faire des demandes de subventions qui n'en finissent plus, de faire de la gestion de budget vraiment intense, puis là, à la fin, faire de la reddition de compte comme s'il n'y avait plus de lendemain. Donc, c'est vraiment problématique, en fait, de ce côté-là au niveau du financement par projet. Les organismes sont connectés directement avec la population. C'est des initiatives qui sont nées de la population, puis les plans d'action sont basés sur les besoins de la communauté. Puis dans une crise comme ça, où on demande aux organismes, en fait, de déposer des projets... pour moi, ça fait pas sens. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour répondre aux besoins de leur communauté.
Ouais, le financement. Et j'imagine que la pénurie de main-d'œuvre doit apporter son lot de défis aussi.
Le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on est sous-financé fait en sorte qu'on offre des emplois qui sont précaires. Puis ça fait en sorte aussi qu'il y a un roulement dans les équipes de travail. Puis ce roulement-là, oui, il impacte à la gestion de l'organisme, mais il impacte en premier lieu sur la population. Puis ça, pour un organisme, c'est un non-sens parce qu'on est là pour desservir la population.
Et quel impact a eu la pandémie sur le personnel des organismes communautaires?
Au début, là, c'était fou de gérer toute cette information-là, tous ces changements-là. Puis de les mettre en place, en fait, là, dans les milieux avec peu de financement, peu de ressources, puis des employés, en fait, qui étaient carrément sur la première ligne. Là. Oui, avec raison, on a parlé beaucoup des gens dans le milieu de la santé, mais nos organismes communautaires aussi, ils étaient en première ligne. Nos travailleurs de proximité, ils sont allés dans les résidences pour personnes aînées, aller faire des commissions pour les gens parce que... ils ne pouvaient pas sortir de chez eux.
Ouais. Et selon vous, comment se porte le milieu communautaire actuellement après l'effet de plus de 8 mois de crise?
Épuisé. Épuisé. La période estivale, qui est comme une espèce de période où on est comme plus tranquille un peu, qu'on peut se permettre, en fait, là, de reprendre notre souffle. Là. Parce que depuis les dernières années, en fait, là, on part en Lyon au mois de septembre, puis ça s'achève au mois de juin avec les AGA, tu sais. Puis juillet, août est salutaire, en fait, là, pour comme reprendre notre souffle, se refaire une tête, puis vraiment réattaquer, en fait, l'année, même si on est rendu au mois de septembre. Puis j'ai l'impression qu'il l'a pas eu, cette période-là. Toutes les horaires ont été chamboulés aussi, tu sais, c'est ça, la j'appelle ça la saison des AGA, là, donc au mois de juin, là, où là, c'est les AGA de tout le monde, où on célèbre, en fait, aussi ce qu'on a fait, tu sais, puis qu'on est fier de ce qu'on a fait avec, je le répète, très peu de moyens. Puis un moment aussi où on est en contact avec notre population, avec nos membres aussi. Il l'a pas eu, tu sais, cette année. Depuis le mois de mars, on se voit à l'à peu près, on se voit en visio. Ce contact-là aussi, il est difficile. L'humain est au centre du communautaire, puis là, il nous manque cette touche d'humanité-là, en fait. Donc, après beaucoup de travail, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptation aussi, puis de la crainte, veux pas, là, je le disais un peu tout à l'heure, les employés des organismes communautaires étaient en première ligne, là. Il y en a eu de l'anxiété, en fait, par rapport à cette situation-là, de se retrouver en contact avec la population alors que les contacts étaient prohibés, là, si je peux dire. Fait que tout ça mis ensemble fait en sorte qu'aujourd'hui, mois d'octobre 2020, les organismes sont épuisés. Les employés aussi des organismes sont épuisés. Comme si on se retrouvait dans une espèce de long tunnel. Autant on a l'impression d'être, oui, OK, au mois d'octobre, mais on a l'impression aussi d'être encore au mois de mars où là, on patauge encore dans la même, dans les mêmes choses. Elle est lourde aussi. La situation, elle est lourde parce que je crois pas être la seule de dire ça. On rêve aussi, elle veut pas que cette situation-là apporte des changements. Puis pour l'instant, peut-être parce qu'on en demande trop, mais on les voit pas non plus, ces changements-là de mentalité, de façon de faire. On est encore dans les mêmes combats, si je peux dire. Tu sais, c'est un grand cercle vicieux de « OK, il y a une pandémie qui a été pitchée dans des problématiques qui étaient déjà là, le sous-financement, la pénurie de main-d'œuvre. » Puis là, on vient demander énormément à ces gens-là. C'est sûr et certain qu'on finit par avoir un peu la langue à terre. C'est ce que je vois, en fait, autour de moi, puis dans le milieu communautaire, en fait. Pas juste dans la MRC de Quaticook, hein. On parle avec tous nos collègues, puis c'est répandu, là, parce que, encore une fois, l'humain est au centre du communautaire, puis même si j'ai la langue à terre, je vais y aller faire mon dépannage alimentaire, puis t'arrives, ça fly, le vendredi soir, je vais aller te le faire, ton dépannage alimentaire, tu sais, puis une famille qui a besoin, regarde, je vais y aller dans la maison, même si ça me fait peur, puis que j'ai la peur au ventre, je vais rentrer, puis je vais aller la voir, la famille, parce qu'elle, elle va encore plus mal que moi. Mais tu sais, quand des gens vulnérables s'occupent d'autres gens vulnérables, à un moment donné, ça fait pas de sens là, non plus. Là. Ouais.
Donc, je comprends que la pandémie n'a pas dû avoir un très bon effet non plus sur le bénévolat.
La plupart des organismes ont perdu minimum la moitié de leurs bénévoles parce qu'ils avaient 70 ans, qui étaient vraiment confinés à la maison. Je pense entre autres ici au Centre d'action bénévole où les bénévoles vont faire la livraison de la popote roulante, vont s'occuper justement de dépannage alimentaire et tout ça. Là, on n'avait plus accès en fait à ces bénévoles-là. Mais ça l'a fait en sorte aussi que justement des gens qui normalement ne se seraient pas impliqués l'ont fait parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc, je sais qu'il y a des enseignants et des enseignantes qui sont allés livrer de la popote roulante. Donc, on est venu toucher aussi une autre tranche d'âge, d'autres tranches de population aussi, en espérant, en fait, que ça va se poursuivre, en fait, puis que les gens vont voir que, ben, même si tu donnes 2 heures par semaine, ça va faire toute la différence pour cette organisation-là, qui va pouvoir compter, tu sais, sur quelqu'un. Puis les gens aussi qu'on aide via notre bénévolat, ça change des vies, là. Il y a comme un contact avec les gens, avec la population. Si on s'implique pas, si on prend pas soin de notre communauté, ben, je le dis souvent, là, on va finir par devenir une MRC dortoir, des villages dortoirs. On va venir habiter ici, mais on vivra pas ici. Et on veut que les gens vivent ici. Puis ça passe aussi par le bénévolat.
Est-ce que vous remarquez un impact sur la santé mentale des gens?
L'arrivée de l'automne, la deuxième vague, le reconfinement, oui, il vient impacter. C'est sûr et certain. Puis l'automne, on sait, là, c'est quand même une saison qui est assez... où on voit beaucoup de cas, justement. Là, il y a de la dépression saisonnière. Bien là, on est en plein dedans. Puis là, on vient de rajouter comme une couche. C'est sûr et certain que ça a un impact, en fait, chez les gens.
Et selon vous, qui parmi les gens vulnérables aurait été malheureusement oublié pendant la réponse à la crise?
Les cas de DPJ, donc les signalements à la DPJ. Puis les situations aussi de violence conjugale. Ces deux clientèles-là, si je peux dire, on les a pas vues. Ah, le taux de signalement a diminué, autant en violence conjugale, DPJ, mais il n'y avait plus rien. On n'avait plus de porte ouverte. Fait que ces gens-là sont encore plus fragilisés aussi, là. Fait qu'on passe complètement à côté, là, d'une très grosse tranche de population, à mon avis, qu'on n'a pas pu toucher, en fait. Juste le fait aussi que si je regarde ici, dans ma MRC, il y a des endroits où on pogne pas Internet, puis on pogne pas de cellulaire, tu sais. Puis ça, veut pas, ça a un impact, là. On peut pas sortir de chez nous, on peut pas se connecter à Internet, des fois, on n'a pas de téléphone. Comment on fait? On vire fou, là, de parler avec personne, là. Il y a des gens pour qui ça a été comme « Oh, il n'y a plus personne pour me taper ses nerfs », mais pour d'autres, ça a complètement coupé les ponts, là. Puis une santé mentale, ça se brise facilement, mais ça ne se remonte pas si facilement que ça.
On a vu que dans plusieurs régions du Québec, les personnes aînées ont été touchées par la crise. Comment ça s'est passé dans la MRC de Coaticook?
Évidemment, vu qu'on a eu peu de cas au niveau de la santé, vraiment physique, là, si je peux dire, a peut-être été moins grand, en fait, là, que, exemple, à la grandeur du Québec. Mais ça n'empêche pas, en fait, que ça les a impactés au niveau de la santé mentale quand même, tu sais. Le fait d'être confiné, on ne peut plus sortir. Je pense entre autres aussi aux gens qui étaient en résidence pour personnes âgées où on sort peu de la chambre. C'est extrêmement difficile, là. Puis on a des habitudes aussi, tu sais. J'ai entendu une histoire d'un monsieur qui, lui, il fume la cigarette, puis il veut son paquet de cigarettes, puis il veut aussi sa petite bouteille d'alcool, tu sais. Puis là, il est obligé de sortir, puis là, il se fait chicaner parce que, oh, tu sais, c'est rough, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment difficile. Puis là, essayer de trouver une solution pour commander de l'alcool, tu sais. C'est poche, là, mais tu sais, en tout cas, moi, je sais que j'ai trouvé salutaire une couple de fois mon verre de vin le soir accompagné de mon souper, tu sais. Fait qu'on peut très bien se mettre dans leur peau. Mais c'est vraiment aussi le fait qu'ils ont été confinés rapidement quand même, de façon assez brutale aussi, là, on va se le dire, là. Parce que même si c'est salutaire, le confinement, ça reste que c'est vraiment pas facile. Les gens aussi qui étaient desservis au niveau du ménage ou quoi que ce soit, à un moment donné, il y a eu un arrêt complètement de ces services-là. On n'avait plus le droit d'offrir des ménages. Il y a des gens pour qui, tu sais, les gens à l'aide de domicile disaient on n'a pas le choix, là, de, à un moment donné, on ne peut pas laisser les gens dans une situation où s'il n'y a pas de préposé qui va faire du ménage, on se ramasse dans un lieu insalubre. On ne veut pas laisser les gens, tu sais, dans des situations comme ça.
Qu'est-ce qui était déjà en place dans votre MRC qui a pu favoriser la réponse à la crise?
La MRC de Coaticook, c'est une communauté déjà qui est assez concertée, où on est résilient, où il y a du dynamisme, où on est habitué de s'arranger avec pas grand-chose. On est une des MRC, en fait. On est la MRC de l'Estrie, en fait, qui cote le moins, je vais dire, au niveau de la défavorisation. Donc, souvent, on a beaucoup moins de moyens, en fait, que d'autres régions. On a la chance aussi d'avoir déjà en place des tables de concertation qui sont habituées de se rencontrer, de travailler ensemble, des organisations aussi qui se connaissent, qui sont habituées de travailler ensemble. Puis ça, je pense que ça fait en sorte que ça a été peut-être plus facilitant, en fait, de passer à travers. Mais en tout cas, on n'est pas encore totalement passé à travers, là, mais on a des beaux liens entre nos organisations. Je trouve ça vraiment assez incroyable, tu sais, la proximité que je peux avoir en appelant à la MRC, que je peux avoir aussi avec les différentes municipalités, avec la Chambre de commerce, l'organisation communautaire qui est juste au bout du fil, la clinique médicale où on a beaucoup parlé, en fait, avec l'adjoint du médecin responsable, la députée aussi qui a été vraiment présente, tant au niveau fédéral que provincial. Il y avait vraiment une proximité. Ah, j'ai oublié la commission scolaire, faut pas que j'oublie Martial, qui est tellement un partenaire incroyable en plus. Tout ça fait en sorte que l'impact, selon moi, est moindre parce que c'est ça, ces milieux-là de concertation étaient déjà là. On a peaufiné ça un peu dans le fond, mais on savait vers qui se tourner. T'sais.
Et qu'en est-il de la participation citoyenne durant une crise comme celle-là?
C'est quelque chose qui est vital pour une population. C'est vraiment important pour moi, la participation citoyenne. C'est comme ça aussi qu'on fait en sorte d'intéresser les gens, en fait, à ce qui va se passer dans la communauté. Qu'ils aient un droit de regard, qu'ils puissent s'exprimer, en fait, sur comment est-ce qu'ils voient, en fait, le développement de leur communauté. Puis ça l'a fait défaut, en fait, je crois, pendant la pandémie, malheureusement. Puis c'est peut-être pas non plus quelque chose qu'on maîtrise très bien encore dans la MRC. Tranquillement, pas vite, on s'en va là. On en a de plus en plus. Puis c'est vrai que c'est pas facile non plus. Mais c'est à force d'en faire, en fait, que les gens vont sentir une légitimité d'y participer.
Ouais. Et en terminant, si vous aviez un conseil à donner à une personne qui commence dans le milieu de l'action collective et du développement des communautés, qu'est-ce que ce serait?
Je pense que le conseil numéro un que j'ai à donner, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute des gens qui sont déjà là. De jouer un peu un rôle de passif, on va dire ça comme ça. De vraiment regarder, en fait, ce qui se fait au niveau de la communauté, puis de comprendre un peu les rouages, parce que d'analyser un peu ce qui se passe, bien, ça fait en sorte qu'on a un meilleur pouls de la communauté. Puis quand on s'implique, bien, on sait de quoi on parle. Je pense que c'est vraiment le conseil numéro un. L'écoute, l'observation.
Émilie Drouin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience à la CDC de la MRC de Coaticook. C'était très agréable.
Ça m'a vraiment fait plaisir.
Vous écoutiez Sonar. L'Observatoire estrien du développement des communautés accompagne et renforce les communautés dans le développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d'agir collective. Vous aimez ce balado? Devenez membre de l'Observatoire pour bénéficier de plusieurs avantages.